Vous écoutez France Culture.
Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Quatrième épisode.
Pour payer la pension de Cosette aux Thénardier, Fantine a trouvé du travail à Montreuil-sur-Mer, dans la fabrique de Monsieur Madeleine, qui n'est autre que Jean Valjean. Très apprécié sous sa nouvelle identité, Monsieur Madeleine accepte de devenir maire de la ville. Mais un jour qu'il soulève une charrette tombée sur le père Fauchelevent, un homme ténébreux, l'inspecteur Javert, croit reconnaître l'ancien forçat. Quant à Fantine, elle est renvoyée des ateliers sans que Monsieur Madeleine ne le sache. Obligée de se livrer à la prostitution, elle est arrêtée par Javert.
Arrivée au bureau de police, qui était une salle basse, Javert referma la porte. Fantine alla tomber dans un coin. Javert s'assit et tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire. Il venait de voir, là, dans la rue, la société, représentée par un propriétaire électeur, insultée et attaquée par une créature en dehors de tout. Une prostituée avait attenté à un bourgeois. Il signa, plia le papier et dit au sergent du poste
« Prenez 3 hommes et menez cette fille au bloc. Tu en as pour 6 mois. »
6 mois de prison ? 6 mois et gagner 7 sous par jour ? Mais que deviendra Cosette, ma fille ? Mais je dois encore plus de 100 francs au Thénardier. Monsieur l'inspecteur, savez-vous cela ? Monsieur Javert, je vous demande grâce. Je vous assure que je n'ai pas eu tort. Si vous aviez vu le commencement, vous auriez vu. C'est ce monsieur le bourgeois que je ne connais pas, qui m'a mis de la neige dans le dos. Ça m'a saisi. Je suis un peu malade, voyez-vous. Ne me mettez pas en prison. Ayez pitié de moi.
Allons, je t'ai écouté. As-tu bien tout dit ? Marche à présent. Tu as les 6 mois. Le Père éternel en personne n'y pourra plus rien.
Grâce, grâce.
Un instant, s'il vous plaît.
Javert reconnut Monsieur Madeleine. Il ôta son chapeau.
Pardon ? Monsieur le maire ?
Fantine se dressa tout d'une pièce, comme un spectre qui sort de terre.
C'est donc toi qui es monsieur le maire.
Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté.
Javert se sentit au moment de devenir fou. Voir une fille publique cracher au visage d'un maire, cela était une chose si monstrueuse. D'un autre côté, dans le fond de sa pensée, il faisait confusément un rapprochement hideux entre ce qu'était cette femme et ce que pouvait être ce maire. Et alors, il entrevoyait avec horreur je ne sais quoi de tout simple dans ce prodigieux attentat. Cependant, Fantine regardait tout autour d'elle.
En liberté ? Qu'on me laisse aller ? Que je n'aille pas en prison 6 mois ? J'ai mal entendu. Ce monstre de maire, c'est lui qui est cause de tout. Figurez-vous, monsieur Javert, qu'il m'a chassé à cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier. Moi, j'avais ma petite Cosette. J'ai bien été forcée de devenir une mauvaise femme.
Tout à coup, elle rajusta le désordre de ses vêtements et marcha vers la porte.
Monsieur l'inspecteur a dit qu'on me lâche. Je m'en vais.
Sergent, vous ne voyez pas que cette drôlesse s'en va ? Qu'est-ce qui vous a dit de la laisser aller ?
Moi.
Monsieur le maire, cela ne se peut pas. Cette malheureuse a insulté un bourgeois.
Inspecteur Javert, vous êtes un honnête homme. Voici le vrai. Je passais sur la place, je me suis informé. C'est le bourgeois qui a eu tort et qui, en bonne police, eût dû être arrêté.
Cette misérable vient de vous insulter.
Ceci me regarde. Mon injure est à moi, peut-être. J'en puis faire ce que je veux.
Je demande pardon à monsieur le maire. Son injure n'est pas à lui, elle est à la justice.
La première justice, c'est la conscience. J'ai entendu cette femme. Je sais ce que je fais.
Je suis au désespoir de résister à monsieur le maire. C'est la première fois de ma vie. Mais je suis dans les limites de mes attributions.
Le fait dont vous parlez est un fait de police municipale. Au terme des articles 9, 11, 15 et 70 du Code d'instruction criminelle, j'en suis juge. J'ordonne que cette femme soit mise en liberté.
Monsieur le maire, permettez...
Plus un mot, sortez.
J'avais reçu le coup de face et en pleine poitrine, comme un soldat russe. Il salua jusqu'à terre et sortit. Fantine le regarda avec stupeur passer devant elle. Elle aussi était en proie à un bouleversement étrange. Elle venait de se voir en quelque sorte disputée par 2 puissances opposées. Ces 2 hommes lui étaient apparus comme 2 géants. L'ange avait vaincu le démon et, chose qui la faisait frissonner, cet ange, ce libérateur, c'était précisément l'homme qu'elle abhorrait, ce maire qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ses maux. Elle sentait fondre en elle les ténèbres de la haine et naître dans son cœur je ne sais quoi de réchauffant, qui était de la joie et de la confiance.
J'ignorais que vous eussiez quitté mes ateliers. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi ? Je paierai vos dettes. Je ferai venir votre enfant. Vous vivrez ici, à Paris, où vous voudrez. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous redeviendrez honnête en redevenant heureuse.
C'en était plus que la pauvre Fantine n'en pouvait supporter. Elle s'évanouit. Monsieur Madeleine fit transporter Fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison. Il la confia aux sœurs. Il se hâta d'écrire aux Thénardier. Fantine leur devait 120 francs. Il leur envoya 300 francs en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant. Sa mère malade la réclamait. Cela éblouit le Thénardier.
Diable, ne lâchons pas l'enfant. Voilà que cette mauviette va devenir une vache à lait. Je devine. Quelque jocrisse se sera amourachée de la mère.
Cependant, Fantine ne se rétablissait point. Elle était toujours à l'infirmerie. Monsieur Madeleine l'allait voir deux fois par jour, et chaque fois, elle lui demandait
« Ferai-je bientôt ma Cosette ?»«
Peut-être demain matin. D'un moment à l'autre, elle arrivera. Je l'attends.
Oh, comme je vais être heureuse !»
Son état semblait s'aggraver.
N'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir ?
Oui.
Eh bien, hâtez-vous de le faire venir.
Qu'a dit le médecin ?
Il a dit de faire venir bien vite votre enfant, que cela vous rendra la santé. J'enverrai quelqu'un chercher Cosette. S'il le faut, j'irai moi-même.
Le Thénardier, cependant, ne lâchait pas l'enfant. Sur ces entrefaites, il survint un grave incident. Nous avons beau tailler de notre mieux le bloc mystérieux dont notre vie est faite, la veine noire de la destinée y reparaît toujours. Un matin, que M. Madeleine était dans son cabinet...
Faites entrer.
Javert demandait à lui parler.
Eh bien, qu'y a-t-il, Javert ?
Il y a, monsieur le maire, qu'un acte coupable a été commis. Un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat de la façon la plus grave.
Quel est cet agent ?
Moi.
Et quel est le magistrat qui aurait à se plaindre de l'agent ?
Vous, monsieur le maire. Je viens vous prier de vouloir bien provoquer près de l'autorité ma destitution. J'ai failli. Je dois être puni. Il faut que je sois chassé. Vous avez été sévère pour moi l'autre jour, injustement. Soyez-le aujourd'hui, justement.
Quel est ce galimatia ? Je ne comprends pas.
Il y a 6 semaines, à la suite de cette scène pour cette fille, j'étais furieux, je vous ai dénoncé à la préfecture de police.
Comme maire ayant empiété sur la police ?
Comme ancien forçat.
Le maire devint livide.
Je le croyais. Une ressemblance, votre force de rein, l'aventure du vieux Fauchelevent, votre adresse au tir, votre jambe qui traîne un peu, est-ce que je sais, des bêtises. Mais enfin, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean, un forçat que j'avais vu à Toulon. En sortant du bagne, il avait, à ce qu'il paraît, volé chez un évêque, puis il avait commis un autre vol à main armée dans un chemin public sur un petit savoyard. Depuis 8 ans, on le cherchait. La colère m'a décidé, je vous ai dénoncé.
Et que vous a-t-on répondu ?
Que j'étais fou.
Eh bien ?
Eh bien, on avait raison, puisque le véritable Jean Valjean est trouvé.
Ah.
Voilà ce que c'est. Il paraît qu'il y avait dans le pays une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champmathieu. C'était très misérable, on n'y faisait pas attention. Cet automne, il a été arrêté pour un vol de pommes à cidre. Il avait encore la branche de pommier à la main. On coffre le drôle. Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat nommé Brevet qui s'écrit...
Je connais cet homme-là. C'est un fardeau. Regardez-moi donc. Vous êtes Jean Valjean.
Qui ça, Jean Valjean?
Tu as été au bagne de Toulon il y a 20 ans. Nous y étions ensemble.
On s'informe à Toulon. Il n'y a plus que deux forçats qui ont vu Jean Valjean, Cochepaille et Chenildieu. On les fait venir. Ils n'hésitent pas, c'est Jean Valjean. C'est en ce moment même que j'envoyais ma dénonciation. Vous concevez si cela m'étonne, moi qui croyais tenir ici ce même Jean Valjean. J'écris à monsieur le juge d'instruction. Il me fait venir. On m'amène le Champmathieu.
Eh bien,
monsieur le maire... La vérité est la vérité. J'en suis fâché, mais c'est cet homme-là qui est Jean Valjean. Moi aussi, je l'ai reconnu.
Vous êtes sûr?
Oh, sûr.
Et que dit cet homme?
Il n'a pas l'air de comprendre. Il a l'air étonné, il fait la brute, c'est bien mieux. Oh, le drôle est un habile, mais c'est égal, les preuves sont là. Le vieux coquin sera condamné. C'est porté aux assises d'Arras. Je vais y aller témoigner. Je suis cité.
Et combien de temps durera l'affaire?
Un jour, tout au plus. L'arrêt sera prononcé au plus tard demain dans la nuit. Il me reste une chose à vous rappeler.
Laquelle?
C'est que je dois être destitué.
Javert, vous êtes un homme d'honneur et je vous estime. Vous vous exagérez votre faute. Ceci d'ailleurs est encore une offense qui me concerne. Javert, vous êtes digne de monter et non de descendre. J'entends que vous gardiez votre place.
J'ai offensé l'autorité dans votre personne. Moi, agent de l'autorité. J'ai souvent été sévère dans ma vie, pour les autres, c'était juste. Maintenant, si je n'étais pas sévère pour moi, tout ce que j'ai fait de juste deviendrait injuste. Je ne souhaite pas que vous me traitiez avec bonté. C'est avec cette bonté-là que la société se désorganise. Le bien du service veut un exemple. Je demande simplement... La destitution de l'inspecteur Javert.
Nous verrons.
Javert sortit. Monsieur Madeleine resta rêveur. De la mairie, il se rendit au bout de la ville chez un flamand qui louait des chevaux et des cabriolets à volonté. Il rentra chez lui. Le lecteur a sans doute deviné que Monsieur Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience. Le moment est venu d'y regarder encore. Nous n'avons que peu de choses à ajouter de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure du petit Gervais. À partir de ce moment-là, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Ce fut plus qu'une transformation, ce fut une transfiguration. Au moment où fut si étrangement articulé ce nom qu'il avait enseveli sous tant d'épaisseur, il se courba comme un chêne à l'approche de l'orage. Tout en écoutant Javert, il eut une première pensée de courir, de se dénoncer, de tirer ce Champmathieu de prison et de s'y mettre. Cela fut douloureux et poignant. Il réprima ce premier mouvement généreux et recula devant l'héroïsme. Hélas, ce qu'il voulait mettre à la porte était entré. Ce qu'il voulait aveugler le regardait. Sa conscience, c'est-à-dire Dieu. Il se parlait ainsi, penché sur ce qu'on pourrait appeler son propre abîme. On n'empêche pas plus la pensée de revenir à une idée que la mer de revenir à un rivage. Il fallait donc aller à Arras.
Eh bien, prenons ce parti. Faisons notre devoir. Sauvons cet homme.
Il écrivit une lettre à Monsieur Laffitte, banquier, rue d'Artois, à Paris. 3 heures du matin venaient de sonner et il y avait 5 heures qu'il marchait, presque sans interruption, lorsqu'il se laissa tomber sur une chaise. Il s'endormit. Il se réveilla. Il était glacé. Il se leva, il alla à la fenêtre. Il vit au-dessous de lui deux étoiles rouges dont les rayons s'allongeaient bizarrement dans l'ombre. Il reconnut que ces deux étoiles étaient les lanternes d'une voiture.
Qui est là ?
Monsieur le maire, c'est le cabriolet. Le cocher dit qu'il vient chercher monsieur le maire.
Dites que je descends.
Il ne connaissait pas Arras, les rues étaient obscures et il allait au hasard. Un bourgeois cheminait avec un falot.
Monsieur ! Le palais de justice, s'il vous plaît.
Provisoirement, les tribunaux ont leurs audiences à la préfecture.
Est-ce là qu'on tient les assises ?
Sans doute, monsieur. Voyez-vous, ce qui est la préfecture aujourd'hui était l'évêché avant la Révolution. Voici la porte. Vous n'aurez qu'à monter le grand escalier.
Quelques minutes après, il était dans une salle. Un huissier se tenait debout près de la porte qui communiquait avec la salle des assises.
Monsieur l'huissier, la porte va-t-elle s'ouvrir ?
La porte ne s'ouvrira pas parce que la salle est pleine. Il y a bien encore deux ou trois places derrière Monsieur le Président, mais il n'y admet que les fonctionnaires publics.
Il écrivit rapidement sur une feuille « Monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer ».
Portez ceci à Monsieur le Président.
Sans qu'il s'en doutât, le maire avait une sorte de célébrité. Le Président dit « Faites entrer ». Tout à coup, sans qu'il sût lui-même comment, il était dans la salle d'audience. Personne dans cette foule ne fit attention à lui. Tous les regards convergeaient vers un banc de bois où il y avait un homme entre deux gendarmes. Cet homme, c'était l'homme. Il crut se voir lui-même, vieilli avec cette prunelle fauve et inquiète, avec cette blouse, tel qu'il était le jour où il entrait à Digne, plein de haine. Il se dit avec un frémissement,
« Mon Dieu, est-ce que je redeviendrai ainsi ?»
Tout cela était béant devant lui. Il en eut horreur et s'écria au plus profond de son âme.
« Jamais. »
Il chercha Javert, mais il ne le vit pas. Le banc des témoins lui était caché par la table du greffier. L'instant de clore les débats était venu. Le président fit lever l'accusé.
« Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ?»«
J'ai à dire ça, que j'ai été charron à Paris, même que c'était chez Monsieur Balou. » »«
Le sieur Balou est en faillite, il n'a pu être retrouvé. Vous êtes dans une situation où il faut réfléchir. Premièrement, avez-vous oui ou non franchi le mur, cassé la branche et volé les pommes, c'est-à-dire commis le crime de vol avec escalade ? Deuxièmement, êtes-vous le forçat libéré Jean Valjean ? » ?»«
Je n'ai rien volé, je suis juste un homme qui ne mange pas tous les jours. » J'ai trouvé une branche par terre où il y avait des pommes. Vous m'ennuyez avec vos bêtises à la fin. Pourquoi donc est-ce que le monde est après moi comme des acharnés ?
Quand il eut fini, l'auditoire éclata de rire. Il regarda le public et, ne comprenant pas, il se mit à rire lui-même. Cela était sinistre.
Monsieur le Président, nous requérons qu'il vous plaise et qu'il plaise à la Cour de rappeler les condamnés Brevet, Cochepaille et Chenildieu et l'inspecteur Javert et de les interpeller sur l'identité de l'accusé.
Je fais remarquer à monsieur l'avocat général que l'inspecteur Javert a quitté la ville aussitôt sa déposition faite. Oui.
Le président transmit un ordre à un huissier et un moment après, la porte s'ouvrit.
Brevet, regardez bien l'accusé et dites-nous si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean.
Oui, monsieur le président, je persiste. Cet homme est Jean Valjean, entré à Toulon en 1796 et sorti en 1815.
On introduisit Chenildieu.
Pardine, si je le reconnais, nous avons été 5 ans attachés à la même chaîne.
L'huissier amena Cochepaille.
C'est Jean Valjean, même qu'on l'appelait Jean le Cric tant il était fort.
En ce moment, un mouvement se fit tout à côté du président. On entendit une voix.
Brevet, Chenildieu, Cochepaille. Regardez de ce côté-ci.
Monsieur Madeleine.
ne me reconnaissez pas? Messieurs les jurés, faites relâcher l'accusé. Monsieur le Président, faites-moi arrêter. Je suis Jean Valjean.
Y a-t-il un médecin ici?
Je vous remercie, mais je ne suis pas fou. Lâchez cet homme. J'accomplis un devoir. Je suis ce malheureux condamné. Vous pouvez me prendre puisque me voilà. J'avais pourtant fait de mon mieux. Je me suis caché sous un nom. J'ai voulu rentrer parmi les honnêtes gens. Il paraît que cela ne se peut pas.
Il n'y avait plus dans cette enceinte ni juge, ni accusateur, ni gendarme. Il n'y avait que des yeux fixés, des cœurs émus. Toute cette foule, comme par une révélation électrique, comprit tout de suite cette simple et magnifique histoire d'un homme qui se livrait pour qu'un autre homme ne fût pas condamné à sa place. Les détails, les hésitations se perdirent dans ce vaste fait lumineux. Impression qui passa vite, mais qui, dans l'instant, fut irrésistible.
Je ne veux pas déranger davantage l'audience. Je m'en vais puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à faire. Monsieur l'avocat général sait qui je suis. Il sait où je vais. Il me fera arrêter quand il voudra.
Il se dirigea vers la porte de sortie. Pas une voix ne s'éleva. Pas un bras ne s'étendit pour l'en empêcher.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. Quatrième épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vining, Jean Valjean, Vincent Schmitt, Javert, Julie-Marie Parmentier, Fantine, Hervé Furic, Thénardier, Steve Tiencheux, Champmathieu, Philippe Loffredo, Brevet, Michel Deshaies, Cochepaille, Olivier Augron, Chenildieu, Jean-Pierre Pancrasil, président du tribunal, Jacques Poitrier, l'avocat général. Et les voix d'Étienne Dureau, Catherine Artigala, Agnès Château, Jeanne Sellard, Claire Bauger, Gilbert Pascal, Julien Grenet, Étienne Grébeau et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Levy. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dereté et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe.